Mustapha Tossa, bonsoir.
Bonsoir Bernard.
Les Européens ont décidé de ne pas définir les gardiens de la révolution iranienne comme une organisation terroriste. Il y a même le chef de la diplomatie européenne qui a dit c'est pas parce qu'on n'aime pas quelqu'un qu'on va le définir comme ça, sans preuve, comme terroriste. Mais en fait, on a le sentiment qu'il y a quelque chose de plus... Il y a quelque chose derrière, quoi. J'allais dire de plus profond, mais il y a quelque chose derrière. Pourquoi, d'après vous, les Européens ont-ils... était comme ça, on va dire, on fait preuve comme ça de distance par rapport à une décision qui était un peu attendue, quoi.
Oui, c'est vrai qu'on a l'impression que les Européens ont comme un cheval calé devant le dernier obstacle et ils n'ont pas osé franchir cette ligne qui est de qualifier les gardiens de la Révolution comme organisation terroriste pour la simple raison, à mon sens, c'est qui s'ils l'avaient fait, ça veut dire qu'ils ferment toute porte de négociation, de contact avec le régime iranien. Parce qu'ils ont effectivement sanctionné des personnalités appartenant aux gardiens de la Révolution, mais ils n'ont pas sanctionné l'institution en tant que telle, parce que l'institution incarne le régime. Et s'ils avaient eu ce courage de qualifier l'organisation comme une organisation terroriste, ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre moyen de traiter le problème iranien que celui de recourir à la thérapie militaire. Et ça, les Européens ne veulent pas lâcher la carte diplomatique encore.
Pourquoi? Tout simplement, si on dit que le Hezbollah est une organisation terroriste, on n'est pas en guerre contre le Liban. Alors pourquoi les gardiens de la révolution, c'est pas l'Iran?
Bah pour la logique européenne, si les gardiens de la révolution, c'est le régime, c'est le cœur du régime iranien. Si demain vous mettez cette organisation sur la liste des organisations terroristes, comme les Américains l'ont fait, vous ne pouvez pas avoir un contact avec eux, ni de communication, ni de négociation, parce que vous êtes en train de traiter avec une organisation terroriste. Et cette logique, moi, à mon sens, les Européens ne veulent pas, ils ne veulent pas s'enfermer dans une sorte de piège où ils n'auraient d'autre choix demain que de recourir à la guerre s'ils veulent empêcher l'Iran d'accéder à l'arme nucléaire. Donc, moi, j'ai l'impression, c'est en tout cas ma lecture, c'est quand je vois les déclarations, les justifications, qu'il faut un jugement d'un tribunal ou qu'il faut qu'un gouvernement déjà porte plainte pour qu'on ait. Moi, j'ai l'impression qu'on est en train de justifier la non-qualification des gardiens de la Révolution comme organisation terroriste, en espérant demain que si cette arme, entre guillemets, cette menace dissuasive fait son effet, que les Iraniens puissent se montrer beaucoup plus disponibles à négocier et à faire des concessions dans le cadre du grand deal nucléaire iranien.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les gardiens de la Révolution, en fait, c'est quasiment l'armée iranienne. C'est ça qu'on ne comprend pas, nous, ici en Europe. C'est que, disons, c'est les troupes d'élite. Mais les Iraniens, à chaque fois qu'il y a eu, par exemple, l'attaque contre le général Soleimani, des actions militaires contre les gardiens de la Révolution, les Iraniens considèrent qu'on a attaqué leur armée. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que pour eux, ce n'est pas un organisme indépendant.
Oui, et c'est beaucoup plus que ça, Bernard. C'est l'état profond iranien. C'est quand on qualifie le cœur du régime, le cœur du réacteur iranien, on le qualifie d'organisation terroriste, on ne peut plus discuter, ni négocier, ni voir ce régime. Et d'ailleurs, vous avez la preuve, pour vous donner l'importance de ce que ça représente pour le régime iranien, cette qualification, regardez, à chaque fois qu'il est question de signer quoi que ce soit avec les Américains ou même éventuellement d'envisager une rencontre avec un possible compromis, une des premières conditions que le régime iranien impose, c'est la levée de ces gardiens de la Révolution, c'est leur sortie de la liste des organisations terroristes. C'est vous dire à quel point ils accordent une importance vitale à ce point particulier.
Alors, je voudrais profiter de l'occasion pour vous poser une question qui me semble totalement incompréhensible. Je comprends évidemment l'antagonisme, et d'ailleurs, on en parle régulièrement avec vous sur cette antenne, vous avez la gentillesse de nous donner votre point de vue sur ces questions. Mais il y a quelque chose que je comprends. Comment est-ce que l'Iran peut s'être mis en guerre en Ukraine? J'explique. C'est un grand pays, c'est une armée qui visiblement a des moyens, que même les Russes n'ont pas, par exemple les drones. Mais ça me semble énorme. C'est-à-dire, non, tout pays, je vous donne un autre exemple, ben voilà, les Israéliens ont dit nous on bouge pas. même les Israéliens, même la grande armée proche-orientale israélienne a dit « Nous, on ne touche pas à ça, c'est trop dangereux. » Et on voit les Iraniens, malgré toute la rancœur qu'on peut imaginer, malgré, je le répète, toutes les interviews qu'on peut donner, les Iraniens prennent un risque qui me semble quand même hors de propos. C'est, comment on peut dire « Je vais être du côté des Russes contre toute l'Europe, les États-Unis, le Japon, l'Australie, je ne vais pas faire la liste, elle est trop grande. Comment est-ce que les Iraniens peuvent faire une chose pareille ?»
Oui, Bernard, je comprends l'ampleur de l'interrogation, mais moi je crois que ça fait partie des alliances politiques régionales. Quand les Iraniens sentent qu'ils ont comme ennemi l'Amérique, le monde arabe, Israël, les pays européens, ils veulent se mettre du côté de Poutine et l'aider à gagner cette guerre en lui fournissant les drones, en lui donnant des armes de qualité qui puissent l'aider à terminer cette guerre le plus rapidement possible. Moi, je la conçois comme ça. C'est une histoire d'alliance politique, de choix d'alliance politique. D'ailleurs, Bernard, vous pouvez poser la même question sur l'Algérie. Comment ça se fait qu'avec tout ce qu'on vit, les Algériens continuent à acheter des armes russes, à envisager des manœuvres militaires avec la Russie? Et ça a d'ailleurs provoqué l'énorme colère des Américains et des Français. D'ailleurs, le patron de l'armée algérienne qui va venir à Paris à la fin de ce mois, et on va lui expliquer qu'il n'a pas à pactiser, il n'a pas à financer la machine de guerre de Vladimir Poutine parce que ça le renforce en Ukraine et ça lui donne des avantages militaires pour battre les Européens et les Américains. Donc voilà, ce sont des... Et d'ailleurs, ce n'est pas par hasard, on retrouve et les Iraniens et les Algériens dans le même camp, celui de Vladimir Poutine, celui de Bachar al-Assad, celui des Houthis au Yémen. Donc voilà, c'est une sorte d'alliance politique et Vladimir Poutine est le chef de l'autre famille, entre guillemets, qui combat les Américains, que ce soit dans le pays du Golfe ou bien en Europe.
C'est ce qu'on appelait le camp du refus, vous vous souvenez ? Le front du refus, on appelait ça.
Avec
les Syriens.
Oui, qui a pris une nouvelle identité, une nouvelle ampleur avec le leadership russe dans la région depuis la crise syrienne.
Mmh. Mais l'Algérie, l'Iran croient sérieusement à une victoire de la Russie ou bien non, ils le font un peu contraints ? Parce que de nouveau, je peux prendre l'exemple que je connais très bien, c'est l'exemple israélien. Ils sont, quels que soient les très bons rapports que Netanyahou entretient avec Poutine qui sont réels, Israël, c'est l'allié des États-Unis. Si les États-Unis disent qu'il faut faire ça, les Israéliens ne diront pas non. Mais ils ne le font pas. Ils n'y sont
oui,
pas.
Oui, oui mais le problème, c'est que ce genre de pays, l'Algérie, l'Iran et quelques autres, croient peut-être que leur avenir politique, leur existence même, dépendrait non pas de la victoire de Vladimir Poutine, mais d'un échec qui ne soit pas trop flagrant ou trop spectaculaire. Donc, c'est comme ça. Ben, les Algériens savent très bien que l'arsenal russe a montré une efficacité sur le terrain ukrainien, et pourtant, ils vont continuer à l'acheter par paquet de milliards. Donc, c'est vous dire à quel point ce sont des alliances stratégiques qui se traduisent par des contrats militaires. Et les Américains, sur ce point-là, sont très, très en colère contre les Algériens. Ils les accusent ouvertement de financer la machine de guerre de Poutine.
Mustapha Tossa, je vous remercie. On rappellera au passage, d'ailleurs, que toute cette histoire de gardien de la Révolution intervient évidemment au moment où il y a une énorme émotion partout à travers la planète sur le sort des femmes en Iran. Et qu'effectivement, on attendait un geste un peu politique, quoi, une volonté de montrer que, en les qualifiant de terroristes, beaucoup de députés européens disaient, oui, c'est aussi une manière de montrer qu'ils agissent comme des terroristes, quoi, et qu'on est solidaire des femmes. Mais apparemment, ça n'a pas été suivi. Il y a des raisons d'État, Mustapha, qui nous dépassent.
Exactement.
Mustapha Tossa, je vous remercie. Bonsoir à vous.
Merci. Au revoir.